Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Une journaliste américaine, Cassandra Willhart, a rapporté dans la revue Science en 2010 le cas étonnant d'une femme de 44 ans qu'elle a appelée par souci d'anonymat SM. L'étude porte sur les émotions. SM est une personne apparemment normale qui semble réagir à toutes les émotions, sauf une, la peur. Elle n'a peur de rien, ni des serpents, ni des araignées, ni des films d'horreur, de rien. Les chercheurs lui ont montré Shining, le silence des agneaux, et rien ne s'en est suivi. Aucun des signes qu'on distingue habituellement chez les personnes qui ont peur et qui sont décrites cliniquement comme une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et une dilatation des vaisseaux sanguins, et même parfois allant jusqu'à la dilatation des bronches. Plus étonnant encore, SM ne distingue pas non plus la peur sur le visage des autres. Ses yeux ne semblent pas voir les signes de peur chez les autres. Puisqu'elle ne connaît pas cette émotion, elle ne la reconnaît pas non plus. Le cas de SM a été longuement étudié, jusqu'à ce qu'on trouve qu'elle avait dans le cerveau deux trous noirs en lieu et place de ce qui devait être son amygdale, une partie du cerveau ainsi nommée d'après sa forme en amande. L'anomalie faisait suite à une rare maladie génétique. Cette découverte a permis de confirmer le rôle crucial joué par l'amygdale cérébrale, structure essentielle au décodage des émotions. Celle de la peur est une des plus faciles à identifier. Inversement, avec certains patients qui ont dû subir une intervention chirurgicale au cerveau, on a pu stimuler l'amygdale directement et recueillir leur impression. L'expérience subjective la plus communément décrite est celle de danger imminent et de peur. Aujourd'hui jusqu'à 14h30 sur France Culture dans les pieds sur terre, quartier d'été, trois histoires de peur racontées sur scène par ceux qui les ont vécues et enregistrées le 26 novembre 2016. Avoir peur ou pas, c'était le thème de nos pieds sur scène. Beaucoup de stimulation d'amygdale donc, avec les histoires racontées par Thomas Bideguin, Florence Villart et le caporal-chef Benjamin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
À cause de la peur de mourir, mais je me suis toujours dit que j'allais arrêter de fumer avant d'avoir 40 ans, avant d'être vieux, parce que c'est un problème de vieux d'essayer de rester jeune, paradoxalement, et donc je m'étais dit ça, et je croise un ami argentin qui m'explique qu'il va réaliser un documentaire sur l'arrêt de la cigarette, et qui cherche quelqu'un, un personnage singulier, qui tiendrait un journal comme ça de l'arrêt du tabac et qui servirait d'ossature à son documentaire. Je dis pourquoi pas. J'avais 39 ans, alors c'était un signe. Plus jamais on me proposerait d'argent pour arrêter de fumer. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais raison, mais à l'époque, je me souviens, je me suis dit que j'avais du bol. Et donc, on a fait ce documentaire, on l'a fait, puis comme c'était pas une fiction, que c'était un documentaire, j'ai arrêté de fumer. Et donc, c'est moi qui fumais un paquet par jour depuis que l'âge de 14 ans, un paquet par jour et un paquet par nuit, je me retrouvais un gros, gros non-fumeur. Donc, je non-fumais beaucoup plus que tous les gens qui n'ont fumé autour de moi, comme ça, nonchalamment, sans y penser. Et puis voilà, j'avais écrit ce journal qui racontait comment on peut devenir fou quand on arrête de fumer, et comment aussi, dans un monde empreint d'intolérance et d'une certaine hystérie hygiéniste, on pouvait passer de résistant à collabo. Donc, on avait fait ce documentaire. Alors, là, j'avais arrêté de fumer. Ça s'était plutôt bien passé, sauf que, évidemment, j'avais remplacé le tabac par l'alcool. Et j'avais un peu mal à la mâchoire à cause des chewing-gums à la nicotine que je mâchais tout le temps. Enfin bon, j'ai un copain qui lit le journal que j'avais tenu pendant le documentaire et il me dit « c'est pas mal, pourquoi t'en fais pas un livre ?» Et alors il me présente à une éditrice qui était sympathique et ravissante et qui me dit « oui, bah oui, elle était partante. Bon, allez, va pour le livre. Cette histoire d'arrêter de fumer, ça commençait à devenir une bonne affaire en fait. » Et donc, voilà, entre-temps, le documentaire avait été diffusé, avec un peu de succès, enfin, pour un documentaire en tout cas, donc dans la limite des places disponibles, et en tout cas, il y avait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient comme ça, faut pas lâcher, vas-y, tiens bon, tout ça, avec des gestes de boxeur bourré, tac, tac, ça fait un peu peur. Et surtout, ce qui fait peur, là où la peur monte d'un cran, c'est que les gens venaient me voir comme si j'étais tabacologue pour me raconter leur combat personnel avec la cigarette et me raconter des trucs extrêmement personnels. Et ça fait peur, par exemple, l'intimité avec des gens qu'on n'a pas vraiment choisi. Donc voilà, la peur montait d'un cran. Mais j'avais écrit ce petit livre. Le petit livre est sorti. Et il a eu, lui aussi, un peu marché, parce que c'était dans l'air du temps, comme ça. Et suffisamment marché, en tout cas, pour qu'on m'invite dans des festivals du livre, en province. Dans des grandes tentes blanches, comme ça. C'est un peu des foires à la célébrité de deuxième main. Moi, je me souviens d'avoir déjeuné à la même table que Eddie Merckx, Luc Ferry et la dame qui présente la météo sur TF1. Les trois à la même table, et moi. Et je me souviens aussi, quand on est sorti, il pleuvait. Et elle l'avait pas annoncé, la dame. Et je me souviens aussi que Eddie Merckx était très philosophe. Mais en tout cas, voilà, dans ces salons, on a un peu peur parce qu'on se retrouve, on passe la journée derrière une table, comme ça, derrière des piles de livres. Et on est coincé. Moi, j'étais coincé entre le monsieur qui avait écrit « Comment construire sa maison verte », là, et là, un monsieur barbu qui était gentil aussi, mais qui en était au 8e tome de ces histoires de dragons et de sorcières hyper bien gaulées sur les couvertures, je me souviens. Et là, c'est open bar pour les fous. Et là, vraiment, on commence à avoir plus peur. On est assis, on est bloqué, et puis les gens viennent. Et là, ils peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils achètent un bouquin. Des fois, même, ils ne se prennent pas la peine de ça. Je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit « Ah, ça te fait rigoler, toi, l'arrêt du tabac ? Parce que moi, mon père, il est mort d'un cancer, je lui tenais la main. Ça te fait rigoler, ça ?» Non ? Non, monsieur. Je lui ai expliqué, je me souviens d'avoir essayé de lui expliquer que justement, c'est la peur de mourir, moi, qui avait motivé mon truc depuis le départ. Enfin bon, on est aussi soumis à un truc dans ces foires aux livres, qui est la lecture publique d'œuvres. Donc voilà, on choisit un petit morceau de son livre, un morceau qu'on a écrit dans l'intimité de la nuit et de sa chambre, comme ça, tout seul, et qu'on va lire à haute voix devant plein de gens. Donc là, la peur monte de 4 crans. Vous savez, les études montrent que c'est d'ailleurs la peur numéro 1, la prise de parole en public. La peur numéro 2, c'est la mort. Ce qui fait que, en fait, dans des funérailles, les gens préféreraient être dans le cercueil que le type qui est debout devant et qui lit un petit texte pour dire que le mec était chouette. Enfin bon, moi j'étais mort de peur, je lisais des bouts de mon truc, et comme les gens aiment bien voir des gens morts de peur, ils trouvaient ça très drôle, tout le monde rigolait, et à mes dépens. Et puis, il y avait une productrice qui était là et qui a vu et qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Mais les gens rigolent, elle produisait des one-man shows. » Elle dit « Pourquoi t'en fais pas un spectacle ?» Bon, je lui ai dit oui. Et puis là, c'était quand même la troisième fois que je passais à la caisse avec l'arrêt du tabac. Il me restait à faire des t-shirts, des porte-clés, une expo de peinture. Donc je retravaille mon texte en y mettant des blagues parce que j'avais peur. Et donc quand on a peur, on fait des, enfin moi je fais des blagues. Et puis la dame m'appelle. Elle me dit j'ai une salle, c'est bon, j'ai trouvé une salle. Bon c'est tout petit, c'est un trou dans le mur comme ça, il y a 40 places, mais tu peux commencer le dimanche. Oh, et là je raccroche. Et là la peur vraiment est montée d'un cran, c'est devenu la peur maladive que je connaissais pas avant. Voilà, je jouais le dimanche et le lundi. Et à partir du jeudi, j'avais des coliques terribles. J'ai joué dans ce trou dans le mur là pendant un mois, deux mois, trois mois. Et la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir eu peur, tout le temps. Donc au début, il y avait peu de monde. Et puis après, je sais pas quoi, les gens ont dû en parler. Ça s'est finalement un peu rempli. Il y a des critiques qui sont venues. Et puis, il y a un type du Festival du Rire qui a vu le spectacle et qui a dit « moi, je l'achète ». Et ben, direction Montreux. Je me retrouve dans le train des comiques. Tous les gars de la télé, comme ça, qu'on voit à la télé, et moi, mort de peur, sur mon fauteuil. Et puis on arrive là-bas, et puis je regarde le programme, et là je vois que dans la même salle où je me produis, moi, le vendredi, eh bien le lendemain, le samedi, c'est le Jamel Comedy Club. Mais moi, j'avais rien demandé, moi. Enfin, je suis pas comédien, j'ai juste arrêté de fumer. Donc j'ai peur, et on m'amène à la salle. Ou plutôt on m'y traîne. Et une fois que je suis là-bas, je parle avec le régisseur. Et il me montre la salle, c'est Bercy. Enfin, ça fait 300 places, mais c'est Bercy pour moi. J'avais très très peur. Et donc avant juste avant le spectacle, je vais à l'entrée des artistes pour essayer de prendre un peu l'air. Et puis il y avait le régisseur était là, qui fumait une clope. Alors j'en ai tapé une. Et j'ai recommencé à fumer.
Je suis une antilope. Alors c'est en tout cas ce que m'a révélé ma psy la première fois que je suis allée la voir. Elle m'a dit, vous êtes une antilope. Alors admettons, vous êtes dans la savane, vous vous abreuvez à un point d'eau, le paysage est magnifique, tout inspire le bien-être et pourtant vous êtes mal. Pourquoi ? Parce que derrière chaque buisson, vous imaginez un prédateur prêt à vous sauter dessus, à dévorer vos entrailles. Au moindre bruit, vous fuyez à toute vitesse. Alors, c'est ce qui assure la survie de votre espèce. Mais résultat, dans la vie, mademoiselle, vous ne profitez jamais du point d'eau. Bon. OK. Alors, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'être une antilope, c'est une pathologie qui est recensée sous l'acronyme TAG. TAG pour trouble anxieux généralisé. Alors, en réalité, quand on a diagnostiqué donc mon TAG, c'était plutôt une bonne nouvelle. Jusque-là, je pensais que j'avais été dotée d'une personnalité pleutre, que j'étais une grosse trouillarde, une sombre miette. C'est vrai que j'étais cet enfant qui séchait les cours de sport. J'avais peur de me noyer dans la piscine, de me faire assommer par un ballon de basket. J'avais peur aussi de finir en fauteuil parce que je me serais brisé les cervicales à la gym en faisant le poirier, par exemple. Je refusais aussi d'aller à la cantine parce qu'on peut attraper une salmonellose à cause d'un œuf mal cuit. Je me souviens un jour, j'ai demandé à mes parents de m'emmener aux portes ouvertes de la DAS. J'avais peur qu'ils m'abandonnent ou qu'ils meurent, voire les deux successivement. Et je préférais prendre les devants. Donc, quand on m'a appris que j'étais malade, finalement, selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, j'étais soulagée. Ça voulait dire que j'allais guérir et devenir une personne formidable. Alors, pour m'aider à devenir formidable, on m'a prescrit du Xanax. Franchement, ça marche, hein, je peux faire des choses que j'étais totalement incapable de faire auparavant. Par exemple, je prends l'avion. Alors, je pleure encore un peu, hein, je prie. Beaucoup, parce que bizarrement, dès que j'ai peur, je deviens catholique. Avec un Xanax, je peux aussi aller au cinéma et m'asseoir au milieu de la rangée du milieu. Alors, en soi, ça n'a strictement aucun intérêt, mais je peux le faire. Alors, tout, évidemment, n'est pas complètement réglé. Hein. Je continue d'évoluer dans la vie avec une sérénité toute relative. J'ai peur de mourir, mais ça, c'est la base. J'ai peur de perdre mon emploi et d'être obligée de devenir prof de yoga. J'ai peur de la sonnerie du téléphone. Je n'ouvre pas mon courrier, je le jette. Donc ça va directement de la boîte à la poubelle. Forcément, je me dis qu'un jour, les huissiers viendront frapper à ma porte. Du coup, j'ai peur d'être fichée à la Banque de France et de me faire expulser de mon appartement. Un soir, c'était l'année dernière, j'étais à un vernissage et il y avait beaucoup de monde. Une soixantaine de personnes entassées dans une minuscule galerie. Il m'est apparu évident que si un drame survenait, parce qu'un drame survient toujours, l'évacuation des lieux serait compliquée. Je me sentais pas très bien, donc j'ai fait l'antilope. J'ai décidé de rentrer chez moi, dans le 10e arrondissement. Je suis montée sur mon scooter, j'ai conduit n'importe comment, comme d'habitude, parce que j'ai peur d'ouvrir mon courrier, mais pas de griller un feu en deux roues. J'ai fait le même trajet que d'habitude, j'ai pris la rue de Lancry, puis j'ai tourné à droite dans la rue Bichat, et arrivé au croisement avec la rue Alibert, j'ai ralenti, je me suis arrêtée, je suis descendue de mon scooter. Je reconnaissais rien, c'était bien mon quartier, mais je le reconnaissais pas en fait. Les deux cafés qui font l'angle, le Carillon Petit Cambodge, étaient bien ouverts, mais les gens étaient tous allongés par terre. Les rues étaient désertes, il n'y avait pas un bruit, pas un mouvement. Tout le monde avait l'air endormi. Moi, j'étais seule, plantée là, au milieu du carrefour. En fait, j'étais la première à arriver sur les lieux de la fusillade du 13 novembre. On venait de tirer à la Kalachnikov sur des terrasses de café en plein Paris, et là, bizarrement, j'avais pas peur. Mon système d'alerte, qui normalement s'emballe au moindre signal de danger supposé au réel, là il disait rien, il s'était débranché. On dit souvent qu'en cas de catastrophe, tout va très vite. Pour moi, tout est allé très lentement. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur place, peut-être jusqu'à ce que les premiers pompiers arrivent. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a dit « Occupez-vous des vivants ».
Transculture, les pieds sur terre.
Un soir, en 1995, j'avais 12 ans. Ma mère m'a autorisé à regarder le journal télévisé. Il y avait un reportage sur la guerre en ex-Yougoslavie et notamment une partie sur le siège à Sarajevo. J'ai vu presque en direct un soldat français, un casque bleu, qui essayait de protéger des civils pris à partie par un sniper. Il essayait de les protéger avec son véhicule et il a été tué. Je me rappelle le gars qui tombe et ses collègues qui essayent de venir à son secours, qui essayent de le sauver. J'ai pas vu une mort quelconque, j'ai vu le sacrifice d'un homme qui essaye de sauver des gens qu'il ne connaît même pas. Je me rappelle que ce souvenir m'a marqué pendant très longtemps et rapidement, c'est ça qui m'a donné envie de devenir soldat. À 15 ans, je l'ai dit à ma mère. Bon, bien sûr, elle n'était pas du tout d'accord. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai ce que je veux, c'est ça que je veux faire. Et à 19 ans, en fait, je l'ai mis au pied du mur. Je suis parti tout seul au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre à Puteaux. J'ai rempli mon dossier, j'ai été faire mes 3 jours de test et je suis devenu marsouin, un soldat d'infanterie de marine. En 2009, mon régiment a été désigné pour partir en Afghanistan. Nous, on était super contents parce que c'était une vraie mission et on s'est dit entre nous, on n'y va pas pour enfiler des perles. Cette mission, j'ai beaucoup de souvenirs, très concrets. Le premier, c'est mon groupe. Mon groupe, son indicatif, c'était 31. 31, c'était 10 frères parmi les hommes, on était inséparables. On était un groupe qui vivait dangereusement parce qu'on sortait tous les jours. Sortir du camp, ça voulait dire aller dans des zones en apparence calmes, mais où le danger pouvait sortir de n'importe où et n'importe quand. Et le danger, c'était les insurgés, qu'on voyait presque jamais, et qu'on fantasmait beaucoup, ce qui fait que pour nous, tout était suspect, tout était dangereux. Un autre souvenir aussi, c'est le sentiment de vulnérabilité qu'on éprouvait quand on roulait dans notre véhicule blindé. Malgré ce qu'on peut penser, si on devait rouler sur une mine artisanale ou être pris par des tirs directs de roquettes, par exemple, l'effet de confinement dans notre espace clos démultiplie l'onde de choc et entraîne des blessures très graves, comme amputations, fractures, brûlures ou organes internes terriblement abîmés. En fait, la hantise du groupe, c'était de mourir enfermé dans notre caisse à savon, dans notre blindé. Et puis il y a eu ce jour d'août. Ce matin-là, on devait partir escorter les copains du génie qui devaient neutraliser un engin explosif improvisé, ce qu'on appelle un IED, sous un pont à la sortie d'un petit village. Ce matin-là, je me sentais invulnérable, super fort, vraiment content d'être là avec les copains, d'être là dans ma mission. On a rapidement progressé, jusqu'à atteindre le fameux village, où là, on a été vers les gens, on a essayé de discuter grâce à nos interprètes. On a donné des bonbons aux gamins, qui se marraient bien. D'ailleurs, en nous regardant, on se demandait si c'était pas nos pare-balles ou nos casques qui les faisaient rigoler. Mais finalement, voir les enfants rigoler, ça nous rassurait quant à notre mission et à notre présence ici. On a dépassé le village et on s'est posté le long d'un petit muret, dans un petit verger, face à un grand découvert, en attendant que les collègues du génie s'équipent pour aller travailler sur l'engin explosif. Et il y a d'autres collègues qui, eux, sont restés dans la base et qui écoutent un petit peu les ondes radio, nous ont averti qu'une quinzaine de talibans se dirigeaient sur notre position, par l'est, pour nous attaquer d'ici 15-20 minutes. Donc, moi, je me suis dit, 15-20 minutes, bon, c'est cool, j'ai le temps de fumer une cigarette. Donc, je me suis assis contre le petit muret dans le verger, et puis je vais profiter du temps qui me restait. C'est à ce moment-là qu'il y a mon chef de groupe qui est arrivé, qui venait me voir, qui me dit... Je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas, parce que si l'ennemi arrive de l'Est, ils vont traverser ce grand découvert et on va les massacrer. En fait, c'est débile, quoi. Donc, je vais aller voir un petit peu, je vais inspecter les abords de notre position. OK. Et là, tout d'un coup, il y a eu plusieurs tirs de roquettes. En fait, les roquettes sont pas venues de l'Est, elles sont venues du village qu'on est traversé, des jardins, des maisons. Et je me rappelais le sourire des enfants et la gentillesse des gens qu'on venait de rencontrer. Il y a une roquette qui est venue taper juste à côté de moi, qui m'a projeté en l'air, sur 2-3 mètres. Je suis tombé au sol, j'ai crié « roquette », bon, tout le monde avait compris, de toute façon, qu'il y avait des roquettes. J'ai voulu me relever, et là, il y a une douleur extraordinaire qui m'a foudroyé le bras gauche. Et en regardant mon treillis, je vois qu'il y a un trou dedans, et qu'il y a des flots de sang qui en sortent. Là, je comprends rapidement que je vais mourir. Je regarde autour de moi, ça tire de partout, je vois les branches des arbres qui tombent, je vois des petits geysers de terre tout autour de moi, et donc je me dis que c'est la fin. J'ai qu'une idée en tête, c'est de récupérer mon arme et de mourir avec, comme un vrai soldat. Alors je rampe quelques centimètres, je le récupère et je m'enroule autour. Et je sens même dans ma tête, enfin sur ma tête, à la jonction de ma boîte crânienne et de ma nuque, la balle qui va venir m'ôter la vie. Et heureusement, avant cette balle, c'est mes collègues qui sont arrivés à mon niveau, et qui rapidement ont réussi à m'agripper, à m'extraire de la zone qui est battue par les feux ennemis, pour me mettre dans un endroit un petit peu plus à l'abri. Et en fait, c'est eux qui m'ont permis de prendre sur moi et de me battre pour ma vie. Et d'ailleurs, je les en remercie. Très rapidement, j'ai été rapatrié en France. Et c'est enfin en France que j'ai pu un petit peu constater les dégâts. En fait, j'ai pris une balle dans le bras qui m'a arraché quasiment tout le biceps, qui m'a sectionné l'artère et la veine, et qui a coupé deux des trois nerfs principaux qui servent au bon fonctionnement du bras. Résultat, j'ai le bras qui est tout maigrichon parce que je pouvais plus m'en servir. J'ai le poignet qui est bloqué. Et j'ai la main qui ne m'est plus du tout utile. Ça veut dire que je ne peux plus conduire, je ne peux plus couper ma viande, je ne peux plus faire mes lacets, je ne peux plus m'habiller tout seul. Bref, je suis handicapé. Et ça m'a longtemps donné envie de chialer. Mais je me suis dit, il ne me reste que la dignité, alors pleure pas. Mais il y a quand même un truc en particulier qui me blesse beaucoup, c'est les rêves que je fais depuis, et notamment un. Ce rêve, il se passe dans ce village en Afghanistan où j'ai été blessé. Sauf que là, cette fois, moi, je suis super tranquille. En fait, c'est moi qui mène la danse. Je me promène dans le village, et je tire dans tout ce qui bouge. Les femmes qui portent de l'eau, les enfants qui jouent, les gens qui sont en train de travailler. Je tue tout le monde. Il y a du sang partout, c'est super gore. Mais moi, je suis calme. Je continue mon chemin, mon petit bonhomme de chemin dans mon village, et je tue tout le monde. Jusqu'à ce qu'enfin, il n'y ait plus personne. Jusqu'à ce qu'enfin, je puisse retourner dans mon véhicule blindé, rejoindre les copains, leur dire « c'est bon, c'est fait, tranquillement, on peut y aller. » Et on s'en va. Quand je fais ce rêve, ce qui me fait peur, malgré le fait que je sache que ça fait partie de mon syndrome de stress post-traumatique, malgré le fait que je sache que jamais dans la vie, j'aurais tiré sur des femmes et des enfants, ce rêve, il est tellement en contradiction avec ce que je faisais quand j'avais 12 ans, que c'est comme une blessure de plus.
Aujourd'hui encore, c'était les Pieds sur Terre, quartier d'été, avec la rediffusion des Pieds sur scène. Trois histoires vraies racontées par ceux qui les ont vécues, choisies par nos soins et mises en forme par Delphine Saltel et Sonia Kronlund. Elles étaient réalisées par Marie Placet et Philippe Baudouin. Merci bien sûr à Thomas Bideguin, Florence Villart et au caporal-chef Benjamin. Merci également à Valérie Borst, Pauline Mocor, Sandrine Chaperon à la revue Tigre, à la technique Claire Levasseur, Pierre-Henri, Nadège, Anthony et Jean-Michel Després. Vous pourrez retrouver une captation de ces histoires en vidéo sur le site des Pieds sur Terre. Et si vous voulez voir les Pieds sur scène en vrai avec certains des intervenants de cette semaine, notamment avec Florence Villart que vous avez entendu aujourd'hui, la femme antilope, rendez-vous au théâtre d'Autun le dimanche 15 juillet, c'est-à-dire ce dimanche. Il y a deux représentations, une à 11h et une à 14h. C'est dans le cadre des rencontres de juillet, le Festival des Histoires Vraies. On y sera, et vous aussi, j'espère.
You feel like an insect, well don't you worry buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Oh, what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red rat.